Vous êtes bien sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime pour cette émission. Ça va être une spéciale théâtre. Alors restez avec nous, restez branchés. Ça va être varié. Vraiment, vous allez découvrir des pièces à voir partout dans Paris. On va commencer par le festival Paris Globe qui se tient jusqu'à jeudi, qui est plutôt de la scène contemporaine. Ensuite, on parlera du festival tout court. Là, c'est complètement différent. C'est des très courtes formes, plutôt sur le ton de la comédie. Et ensuite, on ira au Lucernaire pour la Dame de chez Maxime. Restez bien avec nous. Tout de suite, je reçois Laetitia Guédon. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler donc de ce fameux Paris Globe Festival, deuxième édition de ce festival de la scène contemporaine. Je vais juste parler un peu de votre parcours avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que votre parcours, bien évidemment, est totalement significatif. Hein. Vous faites partie de la création contemporaine théâtrale. Donc voilà, je vais un petit peu dresser en quelques secondes votre parcours. Vous êtes Laetitia Guédon, metteuse en scène. Hein. Vous menez des projets d'action culturelle très innovants, hein, bien souvent en partenariat avec d'autres structures. Vous accompagnez des artistes dans le développement de leurs projets. Vous faites partie de nombreux collectifs associés. Vous élaborez également des projets d'écriture contemporaine. Vous dirigez le théâtre des Plateaux Sauvages à Paris dans le 20e. Vous êtes au cœur de la création professionnelle et de la transmission artistique. Vous avez mis en scène plusieurs pièces pour le Festival d'Avignon IN. Et vous dirigez donc, pardon, et vous faites partie, pas vous dirigez, vous faites partie du Globe Festival. Vous allez donc nous en parler, puisque votre lieu, les plateaux font partie de la sélection, avec un seul en scène hein, d'une cubaine, vous nous en parlerez. C'est jusqu'à jeudi. Dans 8 théâtres, 8 scènes parisiennes. C'est une programmation international, mêlant performance, danse, théâtre, des formes engagées, puissantes, venues de plusieurs pays, Grèce, Italie, Estonie, Brésil, Mexique, Palestine, Cuba, France, qui nous montrent les secousses du monde et interrogent notre époque. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de parler de votre festival qui tombe vraiment bien en ce moment, période pendant laquelle nous vivons une période voilà un peu fracturée. Le monde change vite, hein, parfois trop vite. Nous oublions l'essentiel. Alors, question, comment les artistes, à travers ce festival, le Paris Globe Festival, parlent-ils de des incertitudes actuelles ? Laetitia.
Merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, peut-être que l'identité déjà témoigne du festival, de cette période dans laquelle on est. On est dans un monde qui est de plus en plus, vous l'avez dit, violent, polarisé, où il y a une très grande difficulté à se parler, à s'exprimer, à s'écouter, à s'entendre. Et ce festival, il naît du désir de plusieurs structures qui ont des missions à la fois totalement différentes et très similaires, qui se connaissent, qui s'apprécient, et qui témoignent aussi de la diversité, de la richesse culturelle qu'il y a dans la ville de Paris, puisqu'il y a un foisonnement culturel et un foisonnement d'établissements. Eh bien, ce désir, il est de se réunir, de se parler, et plutôt que de commenter l'actualité comme chacun aime le faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est de passer par les artistes, par les œuvres, par un témoignage vivant d'une scène contemporaine inédite qu'on voit très peu en Europe, qui a été très peu diffusée, de se réunir. Cette initiative, elle est prise au départ par Adrien Devant, qui est le directeur du Théâtre Paris-Villette, formidable théâtre à la Villette, dont on connaît, on apprécie à la fois la programmation contemporaine et en même temps la programmation jeune public, et qui nous a réunis tous, vous l'avez dit, le Théâtre 14, le Théâtre 13, le Civial Montfort, le Théâtre de la Bastille et la Maison des Métallos, autour d'une table pour pouvoir se dire... Voilà, comment on peut témoigner du monde d'aujourd'hui à travers le regard d'artistes qui sont peu ou pas diffusés en France. Et donc ces artistes, ils font partie d'une programmation parfaitement collégiale, d'un repérage qu'on fait tous ensemble à travers le monde, à travers des artistes qu'on accompagne, qu'on connaît, qu'on découvre et qui nous semblent raconter le monde d'aujourd'hui tant par le fond que par la forme des projets qu'ils traitent au plateau. Donc vous l'avez dit, il y a un rapport performatif au plateau, il y a une quête de formes nouvelles, il y a aussi une tentative ou une volonté de faire dialoguer des gens, des mondes qui a priori ne se rencontreraient pas. Et donc cette réunion, elle est là aujourd'hui pour témoigner de ça, le simple fait de pouvoir mettre autour de la table tous ces artistes qu'on ne voit pas vraiment circuler en Europe, puisqu'on échappe finalement aux très gros festivals qui font venir les grandes têtes d'affiche. Nous, qui avons un regard important sur la question de l'émergence et de ces artistes de demain, c'est à eux qu'on a voulu faire la part belle dans ce festival.
Ouais, vous parliez de 8 lieux à Paris, hein, le Théâtre 14, le Théâtre 13, la Maison des Métallos, le Sylvia Montfort, etc. Donc 8 pièces présentées dans le cadre de ce festival qui court jusqu'à jeudi. Est-ce que les pièces sont toutes des créations ou est-ce qu'elles ont déjà été produites?
Eh bien, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des créations comme celle que nous allons accueillir au Plateau Sauvage, celle de Mariam Montero, qui est le point de départ d'une trilogie de portraits de femmes cubaines. Mais il y a aussi des créations qui se sont déjà jouées, que nous avons repérées, mais qui n'ont pas forcément énormément encore circulé ou qui sont au point de départ de leur vie, en fait, de diffusion. Il y a aussi des artistes qu'on découvre, comme le spectacle qui sera à découvrir ce soir et demain au Carreau du Temple, qu'on a tous découvert au Festival d'Avignon, et qui est un spectacle pour lequel il a fallu se mettre tous ensemble pour pouvoir l'accueillir, parce que c'est une distribution importante, avec de nombreuses personnes au plateau. Donc c'est un petit peu ce mélange, on va dire. Nous, on va dire la programmation, elle n'a qu'une ligne éditoriale, c'est la prise de risque, la confiance et la volonté de proposer à des publics très différents sur l'ensemble du territoire parisien une singularité. Des projets qu'on n'attend pas, des projets qu'on découvre, pour lesquels il aurait fallu se déplacer dans toute l'Europe pour pouvoir aller dénicher ces nouveaux talents. Et donc, de pouvoir les partager aussi avec le public, puisque notre point commun, j'allais dire, de tous les lieux, c'est d'avoir des lieux qui sont résolument tournés vers la création. Tous les lieux que vous avez cités qui font partie de ce festival sont des lieux qui sont ancrés, engagés dans la création contemporaine, mais résolument ancrés sur les territoires sur lesquels ils habitent, dans les quartiers dans lesquels ils habitent et qui sont très en prise avec les habitants et avec les gens qui peuplent ces quartiers-là. Donc il y a vraiment cette envie de partage, en tout cas, qui est sans doute la ligne éditoriale la plus forte de ce projet.
Ouais, alors en effet, vous parliez de se promener dans les théâtres jusqu'à jeudi, c'est un peu ça. Tous les jours, tous les soirs, on peut aller voir une pièce venant d'un pays, bien souvent d'Europe, hein, d'un pays différent. Alors je pense à, par exemple, demain à 20h au Théâtre 13, cette compagnie estonienne qui est proche de la frontière russe, qui nous parle de trois hackeuses qui infiltrent des soldats russes en ligne, qui vont gagner donc la confiance de ces soldats russes engagés dans la guerre d'Ukraine. Alors là, évidemment, ça parle de cybersécurité, plateforme de rencontre. Voilà, c'est un exemple parmi toute la création proposée. Donc c'est demain 20h au Théâtre 13. Pour ce qui est des plateaux sauvages, c'est donc sur Cuba.
Absolument. Moi, j'ai fait la rencontre. Alors, c'est un peu particulier, vous voyez, cette collaboration, puisque c'est pas, pour le coup, un spectacle que j'ai découvert, mais un spectacle que j'ai vraiment accompagné. J'ai découvert par le biais de l'ONDA, qui est une organisation qui accompagne des artistes dans leur diffusion, dans la diffusion de leur spectacle, une performeuse, metteur en scène, metteuse en scène, autrice, comédienne, qui s'appelle Mariam Montero. Elle vient de Cuba, où elle a vécu une vie artistique très riche, sur place, très foisonnante. Et puis, elle a décidé de tout recommencer à zéro, de quitter, pour ne pas dire fuir, les difficultés qu'elle pouvait rencontrer en tant qu'artiste à Cuba. Ça aussi, je peux vous dire que lorsque on est en dialogue, parce que ce festival, ça me semble important de le dire, c'est aussi un festival de convivialité. Tous les lieux dans lesquels vous vous rendrez en tant que spectateur sont des lieux où vous pourrez après, au bar, rencontrer les artistes, rencontrer les équipes des théâtres. Et c'est un festival où on ouvre le dialogue avant, après, pendant le spectacle. On mesure la chance que nous avons d'être en France, dans ce pays qui a soigné cette exception culturelle toutes ces décennies passées, lorsqu'on compare aux moyens qui sont donnés aux artistes dans d'autres pays, et notamment à Cuba, où il était très difficile pour Mariam Montero de continuer à performer, d'évoluer dans sa profession. Et donc, elle a décidé de repartir à zéro en s'installant à Toulouse. Et donc, elle a commencé par vouloir travailler, commencer à monter sa compagnie tout en faisant des ménages, parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un parcours singulier, plein d'humilité et de résilience, et qui a commencé à écrire sur la représentation que l'on pouvait se faire des femmes cubaines, puisque vous savez qu'il y a tout un imaginaire autour de la femme cubaine, un imaginaire qui est exotique, qui est parfois raciste, qui est parfois très sexualisé. Et donc, elle a voulu un petit peu dépiéger cette image qu'on a tous de cette femme avec des fruits sur la tête, sur une bouteille de rhum, avec un sourire éclatant, pour raconter ce qu'étaient réellement les femmes cubaines aujourd'hui. Donc, ce premier volet, si j'ose dire, que vous pourrez découvrir au Plateau Sauvage, est le premier volet d'une trilogie qu'elle va interpréter. Donc, le premier volet, c'est elle qui est vraiment en scène. Et puis, dans les deux autres volets, elle convoquera d'autres performeuses, mais où elle commence à mettre le doigt, finalement, sur son histoire. Donc, ça traite à la fois de l'exil, de la résilience. Et tout ça est fait avec une relation, j'allais dire, très tendre, performative et très drôle aussi par moments, à son histoire. Et donc, c'est vraiment un personnage haut en couleur à découvrir.
Oui, ce sera Yo Soy Una Denuncia. Si je traduis, c'est Pourquoi je suis une plainte. Et ça, ce sera mardi à 20h et mercredi. Et ce sera au plateau Sauvage. On va faire une pause et on vous reprend tout de suite. Hein. Vous restez avec nous. On va écouter In the Stone, Earth, Wind and Fire.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Vous venez d'entendre Earth, Wind and Fire in the Stone. Et nous sommes avec Laetitia Guédon. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Nous parlons de ce festival de théâtre contemporain, le Paris Globe. Festival qui se tient jusqu'à jeudi dans 8 théâtres de la scène contemporaine parisienne. Donc on a parlé des Plateaux Sauvages, de cette pièce de Cuba, enfin d'une auteure metteur en scène cubaine, Yo Soy Una Denuncia. Donc ça sera mardi et mercredi au Plateau Sauvage. Également toute une programmation, hein, je pense également à la pièce mexicaine par exemple à Paris Villette lundi, mardi à 20h sur l'Amérique centrale, ses fractures politiques et sociales, toujours l'exil, hein, qui est très souvent présente dans les pièces présentées. Je pense également à cette pièce sur la Palestine, The Last Play in Gaza. Donc ça sera au Théâtre 14, mardi 2 et mercredi à 19h. C'est un geste théâtral assez fort, cette pièce sur Gaza.
Oui, je crois que il y avait une volonté, en tout cas, dans notre festival, de faire dialoguer ce qui ne dialogue plus aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, cette question du conflit israélo-palestinien, de la guerre, des difficultés que rencontrent de part et d'autre les populations de Gaza et les populations d'Israël, on s'en empare en France par des biais qui ne nous permettent plus de dialoguer. Et le théâtre est peut-être le dernier endroit où l'on va pouvoir remettre en jeu la question de la parole, la question du faire ensemble. Il faut pas oublier que ce sont des régions où des gens vivent encore ensemble, sont amis ensemble, traversent des difficultés. En témoigne d'ailleurs le très beau livre que nous allons adapter la saison prochaine au Plateau Sauvage, Nos Cœurs Invincibles, qui a été un livre fait par deux jeunes étudiantes, l'une en Israël et l'autre à Gaza, qui dialoguent. Et je crois qu'on avait vraiment envie, en tout cas, de proposer des œuvres, des spectacles qui nous permettent de réactiver le débat, mais par le biais de la création, par le biais de l'imaginaire, par le biais de la résilience et par le biais de la vie. Je pense que vraiment le Paris Globe Festival, c'est un festival qui est là, qui n'a pas vocation à dénoncer ce que l'on connaît déjà très bien aujourd'hui et ce que l'on décrit très bien aujourd'hui, ce dont on souffre aujourd'hui, mais plutôt à mettre en lumière notre capacité à se parler les uns les autres, à créer ensemble et à partager les mêmes plateaux. C'est un petit peu cette dynamique dans laquelle on est à travers ce spectacle. Mais hier, j'étais au Théâtre Paris-Villette, il y avait le spectacle d'ouverture qui était fait par des chorégraphes grecs, une performance qui était absolument époustouflante, tant sur le plan artistique, tant sur le plan formel que sur le fond. On a là une jeunesse, en tout cas, qui a décidé de vivre et qui a décidé de ne pas se taire. Et je pense que c'est ce que nous allons montrer dans ce festival.
Merci beaucoup pour votre témoignage très, très émouvant, touchant, qui est si important aujourd'hui, en effet, pour la jeune, enfin pour la création en général et nos santé, surtout nos santé mentales.
Absolument.
Merci. Donc tout le programme, de toute façon, nos auditeurs peuvent le retrouver sur le Paris Globe Festival. C'est jusqu'à jeudi dans 8 lieux. Est-ce qu'il y a un pass pour les pièces ou est-ce que spectateur doit prendre une place par lieu?
En vérité, toutes les informations sont sur le site du Paris Globe Festival. Il y a une circulation qui est très fluide entre nos lieux. Je ne veux pas vous dire de bêtises sur la question du pass parce que j'ai pas forcément l'information là sous les yeux. Mais le spectateur, en se rendant sur le Paris Globe, a vraiment tout un itinéraire pour venir découvrir le foisonnement des établissements de la ville de Paris. J'ajoute qu'on est tous des lieux dits intermédiaires de la ville de Paris, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement de son soutien parce que sans les services de la ville, on n'aurait pas pu mettre en vie ce festival-là. Mais ça permet à tous les Parisiens, toutes les Parisiennes, toutes les personnes venues d'ailleurs, de découvrir la richesse de ces établissements culturels qui font la vie des quartiers de Paris aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est donc la deuxième édition du Paris Globe Festival qui se passe dans 8 théâtres, le Paris Villette, le Sylvia Montfort, le 13, le Théâtre 14, les plateaux sauvages et le carreau du temple, le Paris Village, je l'ai dit,
la maison des métallos,
voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Laetitia Guédon. On écoute tout de suite Just an Illusion du groupe Imagination.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Nous venons d'entendre Just an Illusion du groupe Imagination. Et je reçois Bruno Bannon. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes donc metteur en scène, directeur de compagnie, auteur. Vous allez nous parler du festival Tout Court. Ce festival de théâtre a lieu du 2 au 7 juin au Mélo d'Amélie Théâtre dans le deuxième arrondissement. Deuxième. Alors, festival qui, donc c'est sa quatrième édition, le festival Tout Court, c'est 18 très courtes pièces sur 6 jours. Voilà. Donc, vous allez nous expliquer. C'est des pièces entre 10 et 15 minutes, des performances. Donc, 9 pièces, en gros, à partir de 19h, au Mélo d'Amélie. Alors, cette année, le thème est le lendemain. Donc, par exemple, bon, après l'intervention du feu, hein, écrite par Anne Loriot, avec 5 comédiens, puis, enfin, Douleur fantôme de Carole Castaldi avec 3 comédiens, etc. Ça, ce sera donc mardi, hein, le premier soir. S'en suivront ensuite 7 prestations. Alors, c'est un exercice très périlleux que d'enchaîner 9 pièces. Comment s'opère Bruno Bannon les changements de plateau?
Alors, très délicatement. en fait, les changements de plateau, on répète tout ça assez rapidement, mais les changements de plateau, ils durent moins d'une minute. Donc, tout est prévu à l'avance. Toutes les compagnies savent exactement dans quel environnement ils vont devoir jouer. Donc, le plateau, les décors sont au minimum. Et du coup, ça se passe de façon très fluide, à vue. Comme ça, les gens voient exactement ce qui est en train de se mettre en place. Et les pièces se succèdent. Alors, je voulais juste préciser, chaque soir, il y a 9 pièces sur les 18. Et chaque soir, il y a un mélange de pièces différentes. Donc, si vous venez 2 soirs, vous verrez des pièces nouvelles à chaque fois.
D'accord, très bien. Est-ce que chaque pièce est une création pour le festival ou est-ce que ce sont des formes déjà?
Le thème est lancé en général vers janvier, décembre, janvier. Les auteurs se mettent à écrire pour le festival. Les contraintes sont assez spécifiques. Il faut que ça dure entre 10 et 12 minutes. Et il faut qu'il y ait minimum 3 personnes sur le plateau et au maximum 5. Voilà. Donc, à partir de là, ils sont libres dans leur imaginaire. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et les sélections se font seulement sur texte. C'est-à-dire que je n'ai aucune décision et aucune main sur la façon dont la pièce est montée, chaque pièce est montée. C'est vraiment carte blanche pour qu'ils puissent donner libre cours à leur imaginaire et à leurs talents. Et ça, que ce soit les auteurs, les metteurs en scène, les metteuses en scène, les acteurs et actrices.
Alors, on voit que chaque... Est-ce que chaque pièce... Et publié.
Alors oui.
Puisque vous êtes en partenariat.
Effectivement. Un des avantages de participer au festival tout court, c'est que toutes les pièces qui sont sélectionnées, tous les auteurs sélectionnés, sont publiés dans un recueil par la librairie théâtrale, donc la maison d'édition de la librairie théâtrale. Et donc il y a un recueil qui sera disponible le jour même des représentations.
Très bien. Donc nous parlons du festival tout court, hein, 4e édition au théâtre Le Mélie d'Amélo. Cela commence mardi à 19h. Mardi.
Au Mélo d'Amélie.
Au Mélo d'Amélie, pardon. Mardi, on pourra voir donc, par exemple, après l'intervention du feu, hein, d'Anna Loriot, suivi par Douleur fantôme de Carole Castaldi, La nuit des chasseurs de Guillaume de Maistre. Le thème principal, on en parlait tout à l'heure, est le lendemain. Qu'est-ce qui se passe le lendemain?
Exactement. C'est est-ce qu'on est au lendemain de quelque chose? Est-ce qu'on est au lendemain du début d'une ère? J'essaye à chaque fois de trouver des thèmes qui vont provoquer l'imaginaire, mais qui n'enferment pas. Je veux pas que chaque pièce se ressemble. Et donc on est face à des thèmes totalement différents, des approches totalement différentes. Chaque année, je suis à chaque fois surpris de l'inventivité, de la créativité de tous ces artistes Et c'est assez fabuleux de pouvoir, en une soirée, voir autant de styles de théâtre différents.
Oui, je pense à Karine Felous pour Maman n'est pas là, papa, qui est une auteure lauréate et récompensée une multitude de fois. Elle a déjà publié des pièces, Karine Felous.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde.
D'accord.
Effectivement, l'exercice, il est pas simple, hein. D'écrire une pièce qui tient la route, qui est un début, un milieu, une fin, où tout est clair, où on est pris, on est emmené par les personnages dans un temps aussi court, c'est assez rare. C'est pour ça que ça il faut quand même le souligner. C'est-à-dire que d'habitude, quand on va au théâtre, on a un petit temps de show, enfin, on a 5-10 minutes où on s'acclimate à ce qui se passe, on essaie de se mettre dans le bain. Là, on est obligé de plonger directement dedans, on prend pas le temps, on y va. Et c'est vraiment formidable.
Est-ce qu'il y a des changements de décor quand même? Ou très peu?
Alors, pas dans les pièces, très rarement. Alors, après, c'est comme je disais, hein, c'est... À la discrétion des équipes, des troupes, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je découvre les pièces en même temps que le public.
Est-ce que
je ne sais absolument pas comment ça va se passer à chaque fois. Donc je suis comme un enfant. Je dans un magasin de bonbons. Moi, je suis surpris. C'est assez jouissif pour moi. Oui, parfois il y a des changements de décor, mais c'est très léger. Pour montrer, par exemple, un temps qui a passé, qu'on est dans une autre scène ou dans un autre endroit, mais c'est toujours suggéré plus que on ne rentre pas dans des décors qui sont très figuratifs.
Ouais, peut-être l'accent, on va dire, est plutôt mis sur le texte finalement,
sur la mise en scène. Et les acteurs, la mise en scène d'acteurs, la mise en scène justement, comme elle est épurée, il faut qu'elle soit très très juste. Donc c'est tout est difficile.
Oui, c'est vraiment
tout est compliqué.
Un exercice périlleux d'enchaîner 9 courtes pièces comme ça, avec à chaque fois 3, 4 ou 5 comédiens pendant 10 minutes. Voilà, ils doivent repartir. Est-ce que ce sont de jeunes artistes, enfin comédiens, ou déjà confirmés? J'ai l'impression. Parce que quand je vois Valérie Roumanoff, par exemple, avec son texte Après la pluie.
Absolument. On a vraiment de tout. C'est un mélange, en fait, de gens qui sont très confirmés. Je vous rappelle qu'une année, on avait même quelqu'un qui a été à la Comédie Française. Donc, on est sur un panel d'acteurs très différents. Il y en a qui débutent. Il y en a qui sont encore dans des écoles. Mais ça ne se voit pas, en fait, parce que il y a vraiment une homogénéité dans tout ça. Les pièces se suivent et on a des jeunes, des moins jeunes, on a de tout, des hommes, des femmes. Enfin, c'est très varié.
Alors
et puis c'est aussi, j'en suis très fier, c'est de pouvoir justement proposer au public des pièces de théâtre qui sont pas forcément des styles de théâtre qui sont pas forcément l'habitude de voir. Alors il y en a qui vont leur parler, puis après ça va être des découvertes pour certains parce que c'est pas le genre de théâtre qu'ils vont voir d'habitude.
Oui, je pense à Cadavre également, d'Isabelle Chaloni. Enfin, il y en a beaucoup, hein, de courtes pièces comme ça. Il y en a des très drôles. Évidemment, oui. Il y en a qui jouent avec l'humour, il y en a également qui sont plus engagés. Voilà. Donc c'est le festival tout court au Mélo d'Amélie. Alors, ce qui commence mardi, hein, de mardi à dimanche, mardi 2 juin à 19h jusqu'à dimanche 7. Est-ce qu'il y a un pass pour le festival ou est-ce qu'on doit acheter son ticket chaque jour?
Oui, il faut prendre son billet chaque jour.
D'accord. Et quels sont les tarifs?
C'est 15 € la place.
15 € par jour. Bah écoutez, c'est très raisonnable.
Sauf pour les demandeurs d'emploi ou des choses comme ça. Il y a évidemment un tarif.
Un tarif réduit pour certaines catégories. Voilà. Écoutez, c'est formidable. Donc c'est au Mélo d'Amélie dans le 2e à Paris. Ah là là, moi je vais venir. Je viens mardi ou mercredi. Je vous dirai ça.
Eh ben avec plaisir.
Voilà, découvrir ces courtes formes, cette scène théâtrale au Mélo d'Amélie, d'autant plus qu'au Mélo d'Amélie, vous êtes à un lieu super dynamique, avec une école de théâtre, il y a un bar, il y a cette petite salle de voûtée de 50 places.
80 places.
80 places. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bruno.
Merci à vous.
Bruno Bannon. Bon, on va écouter Femme libérée de Cookie Dingler.
Quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Qu'elle sort, même dans elle ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. De temps en temps, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. C'est pas si facile, non.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonsoir, vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Je sors du théâtre du Lucernaire à Paris où j'ai assisté à la première représentation de La Dame de chez Maxime. C'est la toute première, mise en scène par Philippe Persson et Florence Lecor. Bonsoir à tous les deux, tous trois même, puisque la Monde Crevette vient de nous retrouver. Nous allons donc parler de votre dernier bébé, voilà, La Dame de chez Maxime. D'autant plus que je crois crois, Philippe Persson, que chaque année, il y a un projet de votre école de théâtre, de l'école du Lycernaire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que nous sommes la seule école à diriger, Florence et moi, qui permettent aux élèves qui ont fini leur formation de jouer un spectacle dans des conditions professionnelles, parce que grâce à l'appui du théâtre du Lucernaire et grâce à Benoît, qui réserve un créneau, et donc en fait les élèves deviennent comédiens et peuvent tout de suite expérimenter ce que c'est que de faire cette année une série de 70 dates. C'est pas rien, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui rêveraient de faire 70 dates au Lucernaire. Et donc voilà, donc je crois qu'il n'y a pas meilleure école après la nôtre que celle de la scène. Donc voilà, ils expérimentent, et puis en plus avec Fédo qui est un génie absolu et qui n'est pas un auteur facile à jouer et à monter, mais quel plaisir.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment une mécanique terrible.
Oui.
Là, vous avez, au niveau de la mise en scène, c'est quand même prodigieux, là, ce que vous avez réussi à faire. Ils sont quand même 10 comédiens, 10 élèves sur 7. Et voilà.
Et il y a trois équipes. Il y a trois équipes de comédiens qui jouent en alternance tous les jours.
Oui, bah oui, parce que évidemment vous devez les faire jouer quasiment tous.
Bah, en fait, ils passent des auditions et on fait les distributions après.
Oui. Alors votre dernier projet de 2025, c'était déjà un Fédo, hein.
Oui, c'était un fil à la patte avec la promotion précédente.
Un fil à la patte. Comme vous disiez, c'est pas une mince affaire de monter du Fédo, mais enfin vous vous êtes quand même relancé, dans le projet.
Oui, enfin, c'est pas une mince affaire, et en même temps, c'est un travail qui est tellement exigeant et tellement passionnant et tellement enthousiasmant qu'on s'est dit avec Florence que reproposer un Fédo à cette nouvelle promotion que Julia incarne formidablement, c'était un beau cadeau. Voilà. Mais alors après, le travail, effectivement, mais ça a été formidable puisque Fédo est exigeant, donc il faut travailler.
C'est un peu notre auteur fétiche, et pour la petite histoire, la première promotion de l'école, qu'on a créé en 2015, c'était le Dindon aussi.
C'était 2015.
Ouais, voilà. Donc on a fait. C'est le troisième Fédo qu'on monte avec l'école, la critique.
Avec l'école. Dindon, alors la bande crevette vient de nous rejoindre.
Julia.
Bonsoir Julia. Approchez-moi un petit peu, oui. Comme ça, je vais vous passer l'enregistrement. C'est pas votre premier grosse production, enfin gros projet.
C'est quand même mon premier gros projet, 70 dates, c'est au Lucernaire, avec Florence et Philippe en mettant en scène. C'est quand même ma première grosse, grosse même aventure, je dirais. Franchement, c'est une aventure hyper riche. Mais avant ça, oui, d'autres plus petits projets, d'autres formations, mais je pense que c'est la formation que m'ont apporté Florence, Philippe et les autres professeurs qui m'a bien préparée.
Là, vous êtes en fin d'études.
Oui,
donc
oui,
vous vous lancez sur la scène professionnelle.
Là, c'est mes premiers pas. C'est quelque chose d'assez inouï pour moi.
Ouais. Et alors, la mise en scène est très bien orchestrée. Hein. Il y a de la danse, vous chantez. Il y a du jeu. C'est,
ouais, c'est très bien. Encore une fois, vraiment, je remercie Philippe et Florence et les autres professeurs. J'insiste aussi sur ça parce que cette formation a apporté. Tout ça m'a permis d'avoir tous ces bagages, notamment pour la danse, parce qu'on a eu des cours de danse, pour le chant aussi, enfin on a eu des cours de chant, et aussi cette façon de pouvoir s'exprimer sur scène avec son corps. Et non, vraiment, pour ça, je remercie toute l'équipe pédagogique.
Alors, vous nous racontez un tout petit peu, racontez-nous juste pour nos auditeurs. Résumez la dame de chez Maxime. Vous, votre rôle.
Faut que je résume. Et allez donc, c'est pas mon père. Oui, non, mon rôle, on va dire que c'est une môme crevette passionnée par la danse, par le cabaret, qui se retrouve en fin de soirée avec Petit Pont, Monsieur Petit Pont, et qui vont chez Monsieur Petit Pont pour finir la soirée. Et de là s'ensuit des aventures, ouais, quiproquos, des aventures qui vont l'entraîner un peu au-delà de ce qu'elle pensait. Et moi, la môme crevette, je la vois un peu quand même elle essaie de gérer comme elle peut, mais toujours en étant joyeuse, toujours en... Voilà, elle apporte son énergie, son petit grain de folie à toutes ses aventures.
Et alors, Madame Petit Pont va se transformer finalement, puisque vous êtes deux.
Oui, en fait, ouais, on se dédouble, mais on se complète aussi, je trouve, les deux. Il y a une certaine folie chez les deux personnages. Et je pense que la maman crevette s'amuse très bien aussi en Madame Petit Pont.
Alors il y a vraiment une série de quiproquos entre vous, Madame Petit Pont et n'oublions pas Monsieur Mongicourt.
Oui. Oui,
voilà, et qui fait que finalement tout est extrêmement bien huilé, puisque vous avez des changements de décor, hein,
de trois actes.
Ouais. Il y a trois actes et deux changements. Oui.
Donc changement de décor, vous avez cette chaise, hein, ce cabinet de médecine.
Oui, ouais, tout à fait. On a tout ce décor qui nous emmène d'un univers à un autre, vraiment. Enfin, même moi, en tant que comédienne, je me laisse emporter par l'univers. Et la maman crevette vraiment prend un plaisir fou à s'aventurer dans tous ces environnements.
Ouais, et puis dans l'ambiance French Cancan également, avec ces trois danseuses de cabaret qui nous accueillent dès qu'on arrive.
Tout à fait. Ces trois danseuses aussi qui se dédoublent aussi, qui ont un côté un peu plus.
Oui.
On va pas dire sévère, mais voilà, un petit peu plus réservé.
Et il y a la scène, Philippe, la scène avec ces femmes de Paris, les femmes de province, elles arrivent en province, et voilà. Donc voilà, on leur montre un petit peu comment, en fait,
sans raconter toute la pièce, parce qu'elle est difficile à résumer, mais Julia a bien, c'est la rampe de lancement. Je ne sais pas combien, si on la monte intégralement, elle dure près de 3 heures. Hein. Là, chez nous, elle dure 1h35, 1h40. Et je crois qu'il y a, je pense, au moins 25 ou 30 personnages, si on la monte vraiment, ce qui serait formidable de pouvoir faire ça. Bon, voilà, bref, on ne l'a pas fait. Mais on ne l'a pas fait, mais on a donné, j'espère en tout cas, le sel de cette pièce. En fait, c'est un peu toujours la même chose chez Feydeau, c'est-à-dire c'est cette société de petits bourgeois qui n'ont pas trop de problèmes dans la vie, et puis d'un seul coup il y a un petit élément qui est un élément détonateur, qui est un petit grain de sable, et puis là c'est son génie, c'est-à-dire que là d'un seul coup il y a un engrenage qui ne semble jamais devoir s'arrêter, et là en plus dans la môme crevette il s'amuse puisqu'il fait se croiser plein de personnages, plein d'univers, puisque effectivement, pour répondre à votre question, à un moment donné la môme crevette se retrouve pour se faire passer pour la femme de ce monsieur Petit Pont dans un mariage en Touraine. Donc voilà, mais de toute façon, on ne peut pas raconter Feydeau. Il faut venir.
On va juste faire une petite pause musicale et on vous restez bien avec nous. Hein. On vous reprend tout de suite.
Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
c'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Si elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
Quelques mots à son vocabulaire. Amour par terre et somnifère. En d'autres mots, elle se laisse faire. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. De soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières,
c'est la ouate.
C'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligée de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières,
c'est
la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en
négligé. Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous sommes en direct du théâtre du Lucernaire. Il est vraiment génial ce théâtre où l'on joue la Dame de chez Maxime jusqu'au mois d'août. Vous nous redonnerez bien les dates. Mis en scène par Philippe Persson, Florence Lecor. Alors Florence, parlez-nous un peu de la mise en scène. Vous avez transposé la pièce à quelle époque?
Alors dans les années 50. L'année dernière, on avait transposé Un fil à la patte dans les années 20, les années folles. Et là, il nous avait semblé intéressant pour raccorder avec des codes plus faciles à comprendre pour les jeunes comédiens avec lesquels on travaille. Ces années 50 qui sont un peu un basculement aussi, c'est c'est le début un peu d'une liberté à venir. Et en même temps, c'est encore une société très...
Corseté,
oui, avec le poids de la religion, le poids des bonnes manières. Et donc, en fait, ça nous semblait intéressant parce qu'il y avait une sorte de parallèle avec l'époque initiale à laquelle Feydeau avait construit sa pièce originellement. Et aussi, en fait, c'était aussi les grandes années de cabaret ça nous amusait de visuellement aussi de pouvoir travailler sur tous ces univers très colorés, les brochings, les coiffures, et puis le sens de la fête. En fait, on a aussi voulu monter la Dame de chez Maxime particulièrement, puisque dans des moments un peu sombres, comme ceux dans lesquels nous vivons en ce moment, c'est vrai que ce côté très festif et cet hommage à Paris nous avait semblé...
C'est vraiment un hommage à Paris et aux années 50. D'ailleurs, on le voit très bien dans les décors. Les décors représentent tout à fait cette ambiance années 50.
Oui, il y a trois actes. Donc le premier et le troisième acte se passent dans un appartement. Donc on a voulu justement effectivement être un peu l'appartement du médecin des années 50, mais féru de modernité, donc vraiment dans l'air du temps quand même, de son temps en tout cas. Et puis au deuxième acte, on est vraiment dans un extérieur. Le contrat de mariage qu'on fête, donc voilà. Ça aussi, c'était intéressant de travailler le côté extérieur-intérieur. C'est toujours très... ça sollicite beaucoup l'imaginaire, en fait.
Donc, c'est la Dame de chez Maxime. On redonne les dates, Florence?
Oui, alors c'est donc du 27 mai au 30 août. Et c'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 17h.
Très bien. Donc demain samedi à
20h30.
Et on va peut-être reciter le collectif et toute l'équipe, hein, puisque vous êtes quand même 10 sur scène.
Oui.
10 comment sur s'appelle scène. Alors c'est la promotion de cette année?
Eh bien, c'est le collectif Paradis. Paradis, on va dire presque en hommage, enfin, pour nous vraiment on le voit comme ça, en hommage à toute la formation qu'on a eue, parce qu'en fait là où on avait cours à chaque fois où on se retrouvait, que ce soit pour les cours de théâtre, de danse, de chant, c'était donc dans la salle qui s'appelle la salle Paradis. Et donc on a choisi ce collectif et puis aussi pour d'autres raisons entre nous.
En tout cas, c'est vraiment un formidable moment de joie, de gaieté que cette dame de chez Maxime, de Fédo, hein, bien sûr, au Lucernaire, mise en scène par Florence Lecor et Philippe Person. Merci à vous trois.
Merci
de ce, de ces moments, de cette interview. Et vraiment, voilà, encore, c'est vraiment fantastique tout ce que vous faites avec ces élèves de l'école de théâtre.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'était donc la dame de chez Maxime au théâtre du Lucernaire à Paris. Et nous avions écouté pendant cette interview Caroline Loeb, c'est la Watt. L'émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous retrouverez vendredi prochain 5 juin Marie-Laure. Quant à moi, je vous retrouve avec joie le 12. D'ici là, très bonne soirée.
IDFM, 98FM.
Vous êtes artisan, professionnel et entreprise du bâtiment? Alors ne manquez pas le 6e salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France. C'est devenu un incontournable. Réservez votre jeudi 4 juin prochain à partir de 10h. Rendez-vous à Saint-Ouen-l'Aumône pour une journée très riche en échanges. Transition énergétique, développement durable, l'accessibilité, facturation électronique et entreprises en difficulté. Venez aussi découvrir les innovations des partenaires. Informez-vous sur les aides, les formations, les qualifications et aussi les nouveaux marchés du bâtiment. L'entrée est gratuite. Il y a une restauration sur place et vous pourrez peut-être gagner à la tombola. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant en nous appelant au 01 34 32 33 66 ou bien via le QR code sur notre site internet capeb-grandecouronne.fr. Salon professionnel de la CAPEB Grande Couronne Île-de-France, le 4 juin à Saint-Ouen-l'Aumône.